Eh bien, merci d'être encore avec nous tout au long de ce festival sur les www.osmo-radio.fr, sur Facebook, sur Insta, sur Thread, sur TikTok et sur tous les réseaux sociaux que vous pouvez trouver dans le monde. Peut-être même celui de Donald Trump, un de ces quatre. Si on allait aux États-Unis, justement, ça tombe bien parce qu'à 19h15, tous les soirs, au théâtre du Collège de la Salle, c'est la prohibition. Mais j'ai des prohibiteurs. Comment on dit des... C'est la compagnie d'Al Capone, là. Vous êtes qui ? Il y a Raphaël, je crois.
Bonjour, enchanté. Moi, c'est Raphaël, co-auteur de la pièce.
Enchanté, Lucie, co-autrice.
Et puis j'ai un Robin, je crois. J'ai moi. Du mal à me rappeler vos prénoms. Et Brian.
Oui, c'est moi.
Alors là, vous nous plongez dans le... C'est quelle ville ? C'est Chicago, peut-être ?
Ouais, exactement.
C'est ça. Les années 20 ?
Les années 20.
Il y a Al Capone.
Oui.
Et on est dans un speakeasy. Alors pour ceux qui ne savent pas comme moi, ce que c'est qu'un speakeasy, vous pouvez nous raconter ?
Eh ben alors, speakeasy, il y a deux théories sur l'origine. Donc déjà, le speakeasy, c'est un bar clandestin dans lequel on vendait de l'alcool illégalement à l'époque de la prohibition. Et sur l'origine du nom, en gros, speakeasy, ça veut dire parler doucement. Donc c'était au cas où il y avait du coup les agents de la prohibition qui débarquaient, il fallait parler doucement pour pas attirer l'attention. Et l'autre théorie, c'est que l'alcool permet de délier un petit peu les langues, de désinhiber, et du coup, ça permet de parler plus facilement. Et donc, speakeasy. Voilà, ça c'est les deux théories un peu sur l'origine du mot.
Pourquoi avoir choisi ça ? C'est vous qui avez écrit carrément le texte, donc
ouais,
c'est une création complète quoi.
Ouais. On a fait un mélange en fait, c'est une fiction inspirée de faits réels. Et en fait le point de départ c'est Ginette, une Française qui va tenter sa chance à Chicago. Et Ginette, voilà, c'est l'aspect fictionnel parce que c'est inspiré de ma grand-mère, donc pas totalement fictionnel parce qu'elle a existé, mais elle n'a pas tenté sa chance à Chicago, elle a tenté sa chance ailleurs. Et donc on est parti de ce point de départ et je voulais placer l'histoire de ma grand-mère dans un contexte historique réel. Et donc c'est Raphaël là qui a apporté l'idée de la prohibition.
Ouais. En fait, moi, j'ai vécu un petit peu aux États-Unis. J'ai beaucoup de famille aussi qui vit là-bas et j'y suis allé beaucoup étant jeune. Et c'est une culture que j'aime beaucoup, avec laquelle j'ai grandi. Et la période de la prohibition est une période qui m'interpellait, enfin qui me fascinait, mais sur laquelle j'avais pas forcément plus de connaissances que ça. Mmh. Et du coup, en fait, c'est juste quelque chose qui m'intéressait. Du coup, on s'est dit. J'ai proposé à Lucie et on a commencé à fouiller un petit peu pour voir un petit peu l'étendue des recherches possibles. Et en fait, on a trouvé vraiment
un puissant fin d'anecdotes, de
personnages hauts en couleur. Absolument. Mais ouais.
Et joyeux aussi. C'est le début, c'est cette période des années folles. Donc, c'était magique aussi. Il y avait tout ce mouvement très libérateur pour les femmes.
Très festif.
Très festif. Elles ont commencé à arrêter de porter des robes. C'est le début des flappeurs. Donc, c'était des femmes qui refusaient de rentrer dans le moule de la petite femme bien rangée. Donc, en fait, elles pouvaient faire ce qu'elles voulaient, elles ont commencé à s'habiller à la garçonne, se couper les cheveux courts, travailler.
Faire des grèves et tout ça.
Et c'est un premier vrai mouvement de femmes où elles ont manifesté beaucoup pour interdire l'alcool, en fait, parce que leur mari revenait de la Première Guerre mondiale, traumatisé bien sûr, donc il buvait beaucoup. Et donc le pays a commencé à dysfonctionner totalement. Et donc les femmes se sont dit on arrête l'alcool, il faut que les maris reprennent leur travail, éduquent les enfants. Et donc, ça a commencé comme ça. Elles ont demandé deux choses. Elles ont demandé le droit de vote et l'interdiction de l'alcool aux États-Unis.
Ce qui a provoqué quand même pas mal de drames aussi, parce que...
Et oui, c'est pas que salvateur. Ouais.
Il y a eu pas mal de meurtres.
Ouais.
Et puis, il y avait Al Capone. Il est là, en fond, Al Capone.
Tout à fait.
Il est là.
Il y a son ombre qui plane sur votre spectacle.
Ouais.
C'est ça. Al Capone, en fait, c'était il était à la tête de la mafia sicilienne de Chicago qui s'appelait l'Outfit. Et du coup, lui était vraiment géré tous les réseaux de contrebande d'alcool. Donc, il faisait importer son alcool d'un peu partout et notamment du Canada. D'ailleurs, c'est notamment des petites anecdotes comme ça auxquelles nous on fait référence.
Et vous avez d'ailleurs basé, vous êtes basé sur des faits historiques.
Réel,
c'est ça,
intégré dans votre création.
Ouais, ouais. Vraiment, Ginette est fictive, mais dans notre histoire. Mais sinon, tout le reste, même des échanges de répliques, des anecdotes. Enfin, ça s'est vraiment passé tel quel. Aux États-Unis, quoi.
Qui s'est occupé de la scénographie, de la mise en scène, parce que c'est une atmosphère et on la retrouve parfaitement dans le spectacle.
Bah, c'est moi.
C'est très bien fait. Ah, bravo.
Bah, merci.
C'est gentil. C'est très bien fait. Il y a les lumières, il y a tout ce qu'il faut, quoi.
Ouais,
on est vraiment en plonge dans cette époque, comme dans un film.
Bah, c'était un des objectifs. En fait, avec Raphaël, on a écrit. Cette pièce, elle a été écrite comme un scénario. Donc vraiment au début, il y avait écrit intérieur, nuit, extérieur, rue. Enfin voilà, on l'a vraiment écrit comme ça et on voulait vraiment que ça se voit sur scène.
Il y a des phares de bagnole.
Ouais, ouais, c'est ça. Il y a des lumières vraiment. Enfin, on joue beaucoup sur les projections. Donc il y a beaucoup de lumières qui sont voilà.
Puis c'est rythmé quand même.
Ouais, ouais, c'est très rythmé.
Ça va vite.
Ouais,
hein.
Ouais. On joue quatre. Ouais. Enfin, on est quatre au plateau. On joue 12 personnages.
Oui, c'est ça.
Et par rapport à ça, je pense qu'on a les deux comédiens, Brian et Robin, qui peuvent vous en parler. Parce
c'est ce que
je pense que
dire,
c'est eux qui ont...
été muets ou si... C'est le cinéma muet aussi à l'époque.
Hein. Oui, c'est les Laurel et Hardy.
Ah oui. C'est quoi vos rôles, si vous pouvez lui passer le micro?
Moi, j'interprète le rôle de Al Capone.
Ah bah voilà.
Je fais également le rôle de Scott Fitzgerald. Et je fais le rôle de Mo Smith aussi, des deux enquêteurs. C'était un binôme d'enquêteurs qui a existé pendant la Prohibition. C'était le binôme le plus prolifique pendant la Prohibition. C'est Easy and Mo.
Scott Fitzgerald, c'est l'écrivain.
Et Scott Fitzgerald, l'écrivain, ouais, qui a écrit Gatsby le Magnifique. Et qui a écrit Gatsby le Magnifique parce qu'il s'est inspiré de son voisin, si je ne dis pas de bêtises, de son voisin millionnaire qui faisait des grosses soirées. Et donc, justement, là-bas, où on pouvait retrouver plein de choses assez folles là-bas. On pouvait croiser Churchill. Enfin, il y avait vraiment, il se passait vraiment beaucoup de choses dans ces soirées-là. Et donc, et c'était un couple très phare, du coup, de ces années-là, avec sa femme Zelda. Et eux, ils buvaient beaucoup de l'alcool frelaté. Ils étaient complètement fous. Ils dansaient. Ouais. Et voilà. Donc, on a aussi... ils ont mal fini.
Ouais. Comme beaucoup à l'époque.
Et, voilà. Ouais. Et donc, ouais, on les interprète aussi dans la pièce. Donc moi, je fais Scott. Lucie, elle fait Zelda. Et voilà, il y a Al Capone.
Et Robin, il fait quoi?
Et moi, j'interprète le rôle de Johnny Torrio, qui était le boss d'Al Capone à ce moment-là, qui fait une apparition. J'interprète Churchill aussi. Easy Einstein, qui est le compère de Mo et qui forme le duo d'agents de la Prohibition.
Churchill, donc on voyait des hommes politiques là-dedans, quoi, au milieu de...
Oui, Churchill, il avait une ordonnance de son médecin qui lui permettait de boire de l'alcool dans les bars clandestinement, sous prétexte qu'il avait mal à la jambe.
Derrière l'histoire des années 20, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on projette un peu ce qui se passe aujourd'hui. On voit une espèce de parallèle ou d'écho. Ouais. Avec la prohibition, mais justement, est-ce qu'on légalise, est-ce qu'on ne légalise pas les gens qui s'entretuent dans les... Parce que c'est aussi ça, la prohibition. Ouais. C'est les meurtres, c'est prendre des places de marché et tout ça. On le sent quand même dans votre pièce. Ça nous projette un peu, il y a une espèce d'écho, ouais, comme je disais.
Oui, bah, en plus, en fait, on s'est rendu compte que c'était cyclique ça nous a fait penser aussi forcément à la période aussi Covid, mais dans le sens liberté. En fait, on a restreint les libertés d'un coup. Et en fait, bah, là, c'était le cas. On n'avait plus le droit de boire, on n'avait plus le droit de... Enfin, c'est une liberté fondamentale de faire ce qu'on veut normalement.
Ouais,
d'être libre. Et c'est vrai que sous prétexte de couper cette liberté, bah, en fait, ça a ouvert plein de choses beaucoup plus dangereuses et beaucoup plus graves. Et donc, c'est pour ça que Roosevelt, en 1933, s'est dit, en fait, c'était une mauvaise idée. Mais donc, il y a quand même eu 13 ans de prohibition. Ouais. Il y a eu 13 ans pour...
Il y a quand même un éclair, au bout d'un moment, de se dire,
c'est ça.
Erreur, quoi.
C'est ça. Donc, en fait, c'est pas toujours bon aussi
d'interdire. Très bien, écoutez, j'interdis personne, moi je vous souhaite d'y aller, parce que c'est vraiment un super spectacle, c'est rythmé, c'est sympa, on plonge dans, c'est comme un film un peu, au théâtre, et c'est super bien joué, donc bravo à vous. Ça c'est la Prohibition, et ça c'est une belle équipe qu'on retrouve au théâtre du Collège de la Salle à 19h15 tous les jours. Dépêchez-vous, il ne reste pas beaucoup. Merci à vous.
Merci
beaucoup.